Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ben, vous avez entendu la grande nouvelle ce matin, ben oui, on l'a appris hier après-midi, c'est que le pont Champlain ne sera pas prêt à temps. C'est quand même assez fabuleux. Tous ceux qui ont gagé un vin qu'on se trouverait dans cette situation-là, ben vous venez de faire un petit placement. Alors, avec l'augmentation des taux d'intérêt hypothécaires, ça peut être un bien que vous aviez bien placé. Non, mais ça se peut-tu pareil. On s'en doutait. Ce n'est pas nos sujets aujourd'hui. Je voulais juste vous le dire comme ça parce que c'est sûr qu'on s'en parle tous puis on se dit que ça n'a pas d'allure. Mais vaut mieux ça qu'on le fasse trop vite. Hein? Vraiment. Il y a d'autres bonnes nouvelles aujourd'hui. Et vous savez, des fois dans les équipes, c'est important, la reconnaissance. On le dit souvent, hein, faut reconnaître. Quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, et c'est le cas de Normand Gem, mon fabuleux recherchiste. C'est son anniversaire aujourd'hui.
C'est ta fête, je t'aime. C'est ta fête, je t'aime.
Normand Lamour!
Je t'aime.
Ah, merci, Normand. Je t'aime. Tu le sais, on t'aime beaucoup dans l'équipe. Voilà. Si vous avez des gens là qui célèbrent leur anniversaire dans vos équipes, dites-leur que vous les aimez. On va parler d'Alzheimer dans la prochaine heure. Un nouveau vaccin, un autre nouveau, celui-là va-t-il enfin ramener un peu d'espoir pour ces centaines de milliers de Québécois et Canadiens qui vivent en fait avec les dommages causés par cette maladie? Je vais vous présenter mes invités tout de suite pour en discuter, mais avant, je vous dis qu'en deuxième heure d'émission, ça c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que je lisais dernièrement qu'il y avait un jeune sur quatre au Québec qui avait déjà été dépressif. Puis on a tous des moments avec nos enfants, nos jeunes, où on se dit, bon, peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire? On sent que, surtout à l'adolescence, c'est un bout rough à passer, là. Et on essaie de leur trouver des outils, on essaie de les aider. Puis des fois, on se rend compte que c'est plus profond que ça. On se rend compte qu'il y a peut-être une déprime qui colle un peu trop et que ça finit par être une dépression. Puis la dépression au Québec chez les jeunes, et encore moins chez les enfants, on a de la misère avec ça. On a de la misère à parler de ce mot-là. D'abord, dépression en partant, même chez l'adulte, c'est pas évident à avaler. Mais chez les jeunes, c'est encore pire. Et quand c'est un enfant, on a comme plus d'outils. On est tellement étonné de voir un enfant de 4-5 ans qui a envie de s'enlever la vie. Et ça existe chez nous, là, qu'on sait pas comment faire. On va en parler tout à l'heure en deuxième heure d'émission. J'aurai des chiffres surtout, mais surtout, c'est des témoignages. Puis je vous le dis tout de suite, là, d'entrée de jeu. Je me cherche depuis hier des parents qui veulent témoigner de la dépression de leurs jeunes. C'est tellement tabou là, que j'ai de la misère à en trouver. Mais si vous êtes ce parent-là, si vous avez un jeune, pas un jeune adulte, au primaire, au secondaire, que vous pensez qui vit ça, une dépression, appelez-moi, puis tout à l'heure, on va vous mettre en onde. Je cherche des témoignages, je veux vous entendre là-dessus. Faut qu'on se le dise entre nous. On est plusieurs à vivre ça. Et bien sûr, on va parler de yoga parce qu'il y a une fille que je vais rencontrer tout à l'heure, je vais vous la présenter. Elle a réussi à mettre le yoga dans sa routine de vie. Bon, il faut dire qu'elle a vraiment aimé ça, le yoga. Elle l'a même enseigné. Mais il y a quelques années, elle a eu une année vraiment difficile et elle a décidé de se donner un défi yoga. On vous dit tout à l'heure. Mais d'abord, je reviens à l'Alzheimer. J'ai pas perdu la mémoire, je savais qu'on allait parler de ça, là. Hein? Moi, c'est un sujet, je trouve, on en parle peu, l'Alzheimer, puis je pense que Jude Poirier va être d'accord avec moi. C'est notre rendez-vous bisannuel. Merci d'être là, Jude. Professeur titulaire au département de médecine et de psychiatrie à l'Université McGill, directeur de la recherche sur le vieillissement, la cognition et la maladie d'Alzheimer au centre de recherche de l'Institut Douglas. Je vous rappelle que Jude est un de nos grands spécialistes connus à l'international pour avoir isolé un des principaux gènes de l'Alzheimer. Merci d'être là, Jude Poirier. Guylaine Martin, directrice générale du Baluchon Alzheimer. Merci, Guylaine, d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Vous travaillez avec les gens, les familles, les proches qui vivent cette problématique de l'Alzheimer. Le Baluchon, les Baluchons, parce qu'il y en a plusieurs au Québec, font beaucoup pour les proches, les aidants naturels. On parlera tout à l'heure, on va prendre des nouvelles de Josée Labelle. Vous vous en souvenez sans doute de cette dame à qui on a parlé il y a quelques mois, qui avait reçu un diagnostic précoce d'Alzheimer. Et ça fait peur à tout le monde. T'sais, 40 ans, 45 ans, tu reçois un diagnostic d'Alzheimer, Jude Poirier, ça, c'est la pire affaire, là.
C'est terrible parce que c'est non seulement des jeunes, mais j'en ai déjà eu une au centre de recherche qui avait 33 ans. Donc, ça peut être même une jeune mère
oui. Avec
une maladie fulgurante.
Je sais que, bon, on rappelle que votre maman, est morte aussi des suites de l'Alzheimer il y a quelques années, à 94 ans. Bon, on va dire que c'est un âge quand même potable pour mourir, mais dans quel état veut-on mourir? Et c'est, je pense que c'est ça la crainte des gens, c'est de mourir sans se souvenir qu'on a déjà existé.
Oui, oui,
tout à Jude, fait. Vous travaillez là-dessus. Je sais que vous avez été cet été au Congrès mondial de l'Alzheimer. Il y a une couple de semaines, c'était la Journée internationale de l'Alzheimer. Bon, ça, on en profite pour mettre à jour un peu tout ce qui se fait en matière de vaccins, de prévention, de médicaments. Où est-ce qu'on en est exactement, Jude?
Ouais. Ben, tu sais, à chaque fois qu'on se voit, on fait une espèce de mise à jour de la situation. Dernier médicament prouvé 2003, ça fait 15 ans. 165 nouveaux médicaments testés qui ont tous échoué jusqu'à maintenant. Et il y aurait deux vaccins et une molécule chimique qui sont en cours de développement présentement. Et on a eu les résultats préliminaires détaillés cet été d'un des vaccins par la compagnie Biogen aux États-Unis, qui, pour la première fois, là, il faut bien expliquer aux gens ce que c'est. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle une étude de phase 2. C'est pas la finale. C'est celle qui est au milieu, où on cherche la bonne dose de médicaments donnés et où on a fait un double home run, donc double coup de circuit. On a éliminé les changements biologiques, ce qu'on appelle les dépôts amyloïdes à l'intérieur du cerveau des patients, qui fait partie de la maladie. Et on a vu une amélioration de la mémoire. On avait eu jusqu'à présent élimination de l'amyloïde, mais sans jamais avoir, dans le fond, ce qui est important, une amélioration de la mémoire. On peut faire ce qu'on veut dans le cerveau, mais si ça ne se traduit pas par « on va mieux », ça ne sert à rien. Et c'était un peu l'histoire des anciens vaccins.
Et on aurait vu une amélioration significative, là, jusqu'à 30 % oui. des fonctions cognitives en 18 mois. Ça veut dire des gens donc, qui avaient un cerveau endommagé par l'Alzheimer.
Début de maladie,
puis finalement qui, entre guillemets, s'emmutaient, qui revenaient Exactement. À un stade pré-Alzheimer.
Disons que...
C'est comme
pas,
si ça effaçait un peu
ça effaçait
les traces de l'Alzheimer.
Exactement. Et je te
c'est incroyable, ça.
Oui, puis, mais en même temps, tu sais comment je suis prudent dans ces choses-là.
J'ai souvent, puis il faut l'être.
Puis je suis venu souvent à ton émission en disant « Ah, il y a une belle affaire qui s'en vient ». Puis finalement, dans les études finales, il faut bien expliquer ça à nos auditeurs, ce qu'on appelle l'étude suivante, celle de phase 3.
Ouais.
Là, on prend l'Alzheimer ordinaire. En phase 2, on prend presque l'Alzheimer parfait. Il n'y a pas le diabète, il n'y a pas d'hypertension, il n'est pas obèse, il n'est pas ci, il n'est pas ça. En phase 3, on prend les vrais patients. Et c'est souvent là que tout échoue. Parce que le vrai patient a d'autres maladies. Et c'est là qu'on voit qu'un simple médicament qui vise une simple petite cible biologique, quand on le met dans le contexte de plein d'autres facteurs de risque qu'on voit dans la forme ordinaire de la maladie, bien, c'est là que tout s'est écroulé dans le passé. Et on espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas, mais tant qu'on ne le fera pas, on ne le saura pas.
Fait que donc, il faut essayer ça en phase 3 on avec des patients qu'on considère comme étant non parfaits. C'est comme ça
Exactement.
Qu'on les
explique. Exactement. Les ordinaires.
C'est ça. Mais les vrais, c'est ça la réalité.
C'est les vrais. Ouais. C'est les vrais.
Et c'est pour ça que dans ton discours, souvent, tu dis c'est pour ça qu'il faut prévenir. Puis dans tout ce qu'on lit, je lisais encore, il y avait tout un dossier sur l'Alzheimer qui est sorti dernièrement dans un magazine français. Parce que les Français, ils viennent de décider de ne plus assurer certains patients. Entre autres, on parle de déremboursement, c'est-à-dire qu'on a décidé de sur 4 médicaments anti-Alzheimer, on a décidé qu'on ne les payait plus. La Sécurité sociale ne paye plus ces médicaments-là parce que la communauté médicale est un peu divisée. Il y en a qui disent, probablement dont tu es, je voulais t'entendre là-dessus, il y en a qui disent que ça ne sert à rien de payer des médicaments pour des gens là, qui, de toute façon, vont perdre la mémoire. Puis, éventuellement, à terme, ils vont mourir de tout ça. Puis, il y en a d'autres qui disent ben non, c'est une très mauvaise idée parce que même avec ces médicaments-là, même s'ils ne guérissent pas l'Alzheimer, ils retardent quand même les dommages. T'es où, toi, là-dedans?
Ben, en fait, j'ai témoigné à un des comités français, puis j'ai aussi donné mon opinion du côté canadien à cet effet-là. Écoute, on a quantifié, vous savez, les fameux pharmaco-économistes qui évaluent ce que ça vaut la peine qu'on paye pour un médicament. Ben, ils nous disent que ces médicaments retardent l'entrée dans une résidence, dans un CHSLD, de 12 à 18 mois. Et tu sais, on peut mettre un chiffre à ça. 18 mois dans un CHSLD, c'est l'équivalent de près 78 000 $. Donc, est-ce qu'on fait est-ce que c'est bien de dire on paye plus 1 000 $ par année quand on en sauvait 78 000 au bout ou pas? C'est de l'argent, c'est du politique, on s'entend. Mais en termes d'efficacité, je peux te dire, la majorité de mes collègues vont ça fonctionne, ces médicaments-là.
Mais
ça guérit pas.
C'est ça, ça fonctionne. Donc, toi, tu es pour qu'on continue la recherche, c'est sûr, tu es chercheur. Ben, je m'attendais un peu à cette réponse. Tu sais, pour les Français, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit c'est quand même 90 millions d'euros. Donc, je me dis, ce débat-là, On l'a déjà un peu chez nous. On ne l'entend pas des médecins, mais moi, j'ai pu parler à quelques médecins dernièrement qui m'ont dit, tu sais, à un moment donné, même les traitements d'oncologie, là, la chimio, là, tu sais, à un moment donné, avec un patient, c'est son troisième cancer, ça fait 5 ans qu'on lui dit que ça vaut-tu la peine de repayer une chimio? T'sais, c'est le débat, tu parles de pharmaco-économie.
Oui, oui.
Mais ça s'en vient là, notre affaire. Fait qu'avec c'est des vrai. Vieilles personnes, Guylaine Martin, vous qui êtes au baluchon d'Alzheimer, sans doute que vous êtes confronté aussi à cette réflexion. Est-ce qu'on continue de payer des soins à des gens qui, on sait, d'abord, est-ce qu'ils savent qu'ils sont encore là? Pas sûr. Comment vous voyez ça, vous?
Ben, en fait, moi, je pense toujours à la portion proche aidant. Si on peut améliorer la qualité de vie de la personne malade,
ouais.
Par défaut, la qualité de vie du proche aidant va être aussi préservée. Puis, je pense que les jours, les mois, les années qu'on peut aller chercher en qualité de vie pour l'un et pour l'autre, ben c'est gagnant parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est vivre le plus longtemps chez eux. De toute façon, même s'ils voulaient pas ça, il y a pas de place en CHSLD. C'est pas le meilleur endroit, un établissement pour accueillir une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Puis il faut surtout pas le faire en urgence parce que dans ces moments-là, il y a personne de préparé. Donc la personne atteinte est pas préparée à quitter son domicile. Puis le proche aidant, il a pas fait son deuil. Avec la maladie d'Alzheimer, souvent on va parler du deuil blanc. Donc on voit notre être cher s'effriter tout doucement. Puis veut pas, on finit pas par accepter, mais en tout cas se faire une certaine raison. Puis il y a un équilibre qui s'installe tout doucement. Puis la maladie d'Alzheimer, bon, elle a des défauts, bien sûr, mais le fait qu'elle soit longue, fait en sorte que souvent on a le temps de s'ajuster avant qu'il y ait encore un nouveau palier qui arrive.
Ouais.
Donc, il y a une espèce de tango qui s'installe entre le proche aidant et son malade pour essayer de trouver l'équilibre, finalement, pour protéger la santé mentale, mais aussi toute la qualité de vie de cette dyade-là.
Mais ça, je vous entends, Guylaine, puis ça recoupe un peu ce que disent certains gériatres, entre autres, qui disent, écoutez, la maladie d'Alzheimer, là, c'est comme une construction sociale. Vous devez connaître Olivier Saint-Jean, là, le fameux chef du service de gériatrie de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Lui, il dit, là, il a même écrit un livre qui s'intitule « Alzheimer, le grand leurre », où il dit, dans le fond, c'est comme un collatéral de la vieillesse. Fait qu'il va falloir apprendre à vivre avec ça. Ça sert à rien de mettre des millions là-dedans. Jude, là-dessus?
Ouais, mais je suis pas d'accord, parce que c'est une maladie. C'est
attitude. Mais c'est une maladie de petit vieux, tu sais, peut-être que oui, dans le fond.
Ben, je peux te dire
puis
que...
Puis on essaye de lutter contre ça.
Le cancer, c'est une maladie de petit vieux. Tant si tu regardes la prévalence des cancers, la même chose, les maladies cardiovasculaires. L'arthrite, on arrête de traiter l'arthrite. Après tout, ils ont juste mal, là. Pourquoi? Non, je pense que là-dessus, faut vivre avec le fait qu'aujourd'hui, on vit deux fois plus longtemps qu'il y a un siècle.
Mais peut-être qu'on n'est pas fait pour ça.
On n'est pas fabriqué pour ça. Mais il va falloir qu'on gère la situation. Ça, c'est en train d'arriver. Ouais. On s'est parlé des centenaires il n'y a pas si longtemps. Le nombre de centenaires au Québec, il double toutes les 9 ans. Bon, on en a beaucoup de centenaires. C'est facile de trouver des centenaires pour faire une émission de radio. Je peux te dire qu'il y a 20 ans, ouais. C'était compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté. C'est la réalité 21e siècle. Dire, ben, c'est normal, c'est le vieillissement, puis on ne devrait pas s'en occuper, c'est un peu nono.
Ce qu'il dit, c'est qu'il faut passer, ce que certains gériatres estiment, c'est qu'il faut passer de l'illusion de guérir au prendre soin, du curing au caring, en fait. Êtes-vous d'accord avec ça, Glenn?
Bien sûr, nous, on fait ça à l'année longue. Mm. C'est vraiment là où on se spécialise. Puis d'ailleurs, toujours dans cette même philosophie des Français, ben effectivement, là, ils rembourseront plus.
C'est un débat,
plus.
Là.
C'est ça, ils rembourseront plus certains médicaments, mais en même temps, là, ils se rendent compte qu'ils viennent voir ce qui se passe au Québec.
Ouais.
On a une méchante longueur d'avance pour le maintien à domicile ici par rapport à chez eux.
Ah ouais.
Tellement que nous, on lance Baluchon France en décembre qui vient, là, le mois prochain.
Oh!
Donc, on va parce qu'ils ont changé le droit du travail pour permettre aux gens de faire du baluchonnage comme nous on le fait ici.
Moi, expliquez ce que c'est un peu le baluchonnage pour ceux qui savent pas trop.
Le baluchonnage, c'est une accompagnatrice spécialisée qui va aller prendre le relais du proche aidant.
C'est du répit.
C'est du répit pour une période minimum de 4 jours jusqu'à 14 jours, 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire que notre personnel, si elle part 10 jours, elle va travailler 240 heures. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment 24 heures sur 24, toujours la même personne. Son rôle, il est bien sûr de donner du répit à la personne au proche aidant en prenant soin de son malade, mais c'est aussi, et je vous dirais même surtout, mettre en place des stratégies pour diminuer le sentiment de fardeau du proche aidant.
Ah ouais.
Donc, la baluchonneuse, qui est l'accompagnatrice spécialisée, a comme rôle de porter un regard bienveillant sur la situation et voir comment on pourrait améliorer finalement soit la santé, la sécurité, l'environnement de la personne malade pour diminuer le sentiment de fardeau qui est sur les épaules du proche aidant au quotidien. Donc, wow. Ça, c'est vraiment le rôle de la baluchonneuse.
Vous n'avez pas de problème à trouver des gens qui font ça?
Non, bizarrement. En
c'est
fait,
vrai?
Oui, vraiment.
24 heures sur 24, 10 jours de temps, il y a du monde, oui?
Il y a plein de monde. Il y a plus de monde. En fait,
mais ce n'est pas du bénévolat? Là.
Non, non. C'est des employés payés, assurés, formés. Mais c'est très souvent, je vous dirais, des retraités du réseau public de santé. Donc, quand elles prennent leur retraite du réseau, c'est principalement des femmes. Elles sont 23 femmes et un homme. Donc, elles sont 24 personnes à parcourir le Québec. Et ces 24 personnes, en fait, très souvent, c'est ça, elles ont passé toute leur vie dans un milieu très institutionnalisé. Puis là, tout d'un coup, elles veulent continuer de prendre soin de quelqu'un, mais sans avoir cette contrainte de temps.
Ouais.
Donc, nous, si la dame veut pas s'habiller à 8 heures, elle s'habillera à 10 heures. Si ça prend 2 heures, prendre le repas du midi, ça prendra 2 heures. Tu sais, on n'est pas contraint. Elles ont 24 heures, finalement, pour faire l'entièreté de la tâche. Puis, quand on parle avec les Français, ben souvent, les normes du travail en France, ce qu'ils nous disaient...
Les normes, les syndicats,
exactement.
Y a tout ça. Là,
ce qu'ils nous disaient, c'est que c'est d'abuser des gens. Puis on leur disait, mais vous savez...
C'est la vie.
La fatigue institutionnelle est parfois plus lourde à porter que le 24 heures au courant. Là. Donc, c'est une question de regard, finalement. Et c'est sûr que...
Parce que la personne, le baluchonneux ou la baluchonneuse, vit avec la personne Alzheimer... Donc, c'est autre chose. C'est un autre mode de travail.
Ça devient son quotidien.
Voilà,
en fait, on s'ajuste entièrement à la routine de vie de la personne malade. On prend vraiment le rôle du proche aidant. Mais comme je vous dis, avec ce regard bienveillant, de vouloir changer un petit peu les choses pour faciliter son quotidien.
C'est fabuleux comme projet.
Vous disiez tantôt, il faut prendre soin de ceux qui prennent soin.
Ah, mon
Donc,
Dieu,
tantôt, vous avez dit merci à M. Jem d'être dans votre vie.
Ouais.
Ben, c'est un peu la même chose qu'on dit. Tu sais, actuellement, on sait, les professionnels de la santé se sentent bousculés, se sentent peu respectés par leur employeur, mais c'est difficile de prendre soin de quelqu'un quand il y a personne qui prend soin de nous.
C'est vrai.
Donc, le rôle de l'organisation, du bureau coordonnateur de Baluchon, c'est de faire du caring aussi avec notre personnel qui va faire du caring avec le proche aidant qui fait du caring avec la personne malade.
Tout à fait. C'est un beau, beau, beau projet. Je suis contente que ça aille chez les Européens, chez les Français.
Oui. Ça s'en va dans l'Ouest canadien aussi.
Wow!
Ouais,
super. On va s'arrêter ici. On reste bien sûr avec nos invités, Jude Poirier et Guylaine Martin. Après la pause, on va parler à Sylvain Labelle, qui est le conjoint de Josée, qui a reçu un diagnostic précoce l'année dernière d'Alzheimer. Il va nous donner des nouvelles de Josée. Puis bien sûr, si vous avez des questions pour Jude, pour Guylaine, ne vous gênez pas. Nos numéros 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. On va revenir aussi sur d'autres pistes avec Jude Poirier. On parle d'une piste peut-être sur l'antiviral. Il y a des liens qui sont faits aussi. Alzheimer, herpès. Bon, les nouvelles voies de recherche, c'est ça dont notre sujet d'aujourd'hui. Et bien sûr, tout ce qui peut vous aider à améliorer, à faire de la prévention, parce que on peut prévenir quand même. On va revenir avec certains outils pour vous. À tout de suite, tout le monde. On parle de maladie d'Alzheimer ce matin. On se demande si un nouveau vaccin pourrait peut-être réparer les dommages causés par la maladie. Une maladie qui parfois frappe plus tôt qu'on le souhaiterait. C'est ce qui est arrivé à José Clément, dont le conjoint Sylvain est avec nous. Bonjour Sylvain.
Bonjour Isabelle.
On vous avait reçu l'an dernier quand José a reçu son diagnostic d'Alzheimer précoce. Vous étiez assez démunis parce que à Gatineau, vous aviez personne qui pouvait vous aider. Vous étiez venu d'ailleurs, vous aviez rencontré le docteur Jude Poirier que vous avez vu par la suite. D'abord, comment va José aujourd'hui par rapport à l'année dernière?
C'est sûr que ça descend, ok? Ça descend, mais c'est quand même positif. C'est quand même positif. José, ce qui est le pire dans l'histoire à José, c'est que je trouve que dernièrement, elle s'en rend compte. C'est une des parties qui est un peu dure pour moi. Là, pour moi, je m'adapte très, très bien. Très bien, mais Josée, plus qu'elle avance, plus qu'elle se rend compte des choses qu'elle fait.
Ou qu'elle fait plus.
Ben, qu'elle fait plus, ouais.
Elle fait plus la même. Comme conduire, par exemple.
Hein? Absolument. Elle conduit plus, elle fait plus à manger, elle fait plus l'épicerie. C'est toutes des choses que j'embarque puis je fais. Là, puis... Mais on s'adapte.
Et quand vous la voyez se voir, justement, perdre la mémoire, ça doit être assez affreux. Quelle réaction a-t-elle par rapport à sa situation?
Ça la fâche. Elle se fâche contre elle-même, elle se fâche pas contre moi. Vraiment, elle aime bien l'idée que je m'occupe beaucoup d'elle. Elle m'a parlé l'autre jour, elle me dit, écoute, elle dit, pourquoi tu t'occupes de moi comme ça, tu sais? J'ai dit, garde, si ça serait moi, là, qui aurait la maladie, tu le ferais-tu? Elle dit, ben oui. J'ai dit, voilà, on vient de répondre à la question.
Est-ce que ça vous angoisse parfois quand même, Sylvain, absolument. Quand vous y pensez?
Absolument, oui. Absolument. C'est des moments, mais c'est ça, moi, ce qui me jette à terre, c'est quand je vois qu'elle s'en rend compte. C'est ça que je trouve dur. Ça va très bien.
Oui. Évidemment, bon, quand vous rappelez-moi un peu cette période, quand vous avez reçu les premiers symptômes, comment vous en êtes rendu compte? C'est vous qui avez dit à ouais. José, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas.
Absolument. Au début, on pensait, tu sais, José, c'est une fille qui est pleine d'action, qui court partout. On pensait au début, c'est parce qu'elle pensait trop, elle s'occupait trop. Les petits oublis, mais c'est devenu de plus en plus important, de plus en plus important. Et puis là, ben les premiers médecins qu'on a rencontrés ont parlé peut-être d'une dépression. C'est les premiers signes, tu sais. L'idée d'une maladie cognitive, c'était hors de question au tout début, avec les professionnels. Et puis, plus qu'on a avancé, ben, tu vois, en janvier l'année passée, là. Mais non, en fait, c'est pas en janvier, c'est en juillet l'année d'avant qu'on a eu le diagnostic.
Puis quand vous dites elle oubliait certaines choses alors que c'est une fille d'action et tout, est-ce que, parce qu'on a souvent, on le dit souvent, c'est pas quand tu oublies tes clés, là. C'est pas ça, tout le monde, à un moment donné, il perd ses clés, ça veut pas dire que tu vous allez être Alzheimer. C'était quoi, par exemple, les premiers. Ce qui vous a sonné la cloche à vous, Sylvain, son conjoint, vous ne reconnaissiez plus votre conjoint, vous vous dites, il me semble qu'elle ne fait pas ça d'habitude.
Oui, les appels, quand je suis en dehors, elle va aller faire l'épicerie, elle peut m'appeler trois fois pour dire, c'est quoi encore que je m'en venais chercher? Là, tu dis, c'est du lait ou un exemple comme oui. Parmi tant d'autres, c'était pas José, là, des choses comme ça. Elle peut appeler cinq fois.
Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment une situation extraordinaire. Jude Poirier, peut-être là-dessus, parce qu'effectivement, sur les symptômes, des fois, les gens ont des craintes parce qu'ils ont des petits oublis. Les petits oublis sont normaux dans la vie de tous les jours. On est tellement...
Comme je dis, quand éventuellement, vous vous rappelez du nom de la personne. C'est ça. Les gens me disent, en vieillissant, j'ai de la misère à me rappeler des noms. C'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Puis éventuellement, ça revient 5 minutes ou dans la soirée, ça revient. Quand on voit un exemple...
On appelle ça un senior moment. J'écoutais Dominique Michel qui parlait à mon collègue Paulo cette semaine, qui cherchait le nom de quelqu'un. Elle l'a retrouvé, mais elle l'a retrouvé 30 secondes après. Elle dit, oh, je viens d'avoir un senior moment, un moment de personne âgée. J'avais trouvé ça très drôle.
C'est cute. Ouais. Non, et c'est surtout, on voit, un des exemples, c'est la fréquence des pertes de mémoire. Mm-hmm. Ça, puis je donne souvent l'exemple de la période des fêtes. Le mononcle qui vient vous voir, il vous raconte une joke, puis il rit avec vous, puis il est tout heureux. Là. Puis là, il revient au bout de 10 minutes et dit, j'ai une bonne joke à te conter. Puis il vous fait ça 3-4 fois dans la soirée. C'est parce que c'est pas juste qu'il oublie qu'il a raconté la joke. Il oublie complètement tout le contexte, la personne. Ça, c'est des signes. Dans le temps des fêtes, là, souvent, c'est révélateur des gens qui commencent à être un peu plus sérieux, plus avancés dans la maladie. Et on est loin du problème simple d'oublier ses clés ou j'ai mis l'auto dans le stationnement.
Ouais, ça, c'est vraiment... Oui, Guylaine?
Je dirais même, c'est important de connaître aussi l'histoire de vie un peu des gens. Si, par exemple, je pense à mon père, ben, mon père, toute sa vie, a cherché le nom des gens. Ben, à 72 ans, il cherche encore. Ouais, tu comprends? C'est pas significatif pour lui. Par contre, pour quelqu'un d'autre, ma mère, par exemple, qui, elle, a compensé, finalement, elle se rappelle toujours du nom, en tout cas, très souvent du nom de tout le monde. Ben, demain matin, maman se rappellerait plus du nom des gens sur une fréquence régulière, là. Ben, ça m'inquiéterait. Mais du côté de mon père, en tout cas, pas du tout. T'sais.
Il est le même.
C'est ça. Ça fait partie de qui il est.
Avez-vous l'Alzheimer dans votre famille?
Oui, ben en fait, du côté de mon père, ses frères étaient atteints. On voit que quand il traverse le 80 ans, on voit une fragilité neurocognitive s'installer.
Ouais.
Mais voilà, en même temps, pour la plupart, en tout cas, ils décèdent assez rapidement. Ce qui fait qu'on voit pas trop les dommages, sauf le plus vieux frère de mon père qui, lui, a eu le temps d'être diagnostiqué et tout. Puis il y a une sœur aussi qui est atteinte. Mais voilà, mais en même temps, mon père, c'est le bébé de plusieurs enfants. Donc, il voit tous ses vieux frères et vieilles sœurs partir doucement de différentes maladies, dont celle-là.
Mais à 44 ou 45, je reviens à vous, Sylvain, on n'est pas prêt pour ça, là.
Absolument pas. Absolument pas. Puis comme que vous dites, tu sais, comme José aujourd'hui, je vais arriver ce soir après le travail, puis ouais. elle se rappellera pas d'avoir dîné. Là. Elle va dire non, j'ai pas dîné. Puis après ça, tu lui rappelles, puis tout est correct. Mais non, absolument, on n'est pas prête à ça.
Wow. Vous sentez-vous tout seul?
Non, j'ai une bonne appui. Regarde, les gens autour de nous, ça va vraiment bien. J'ai beaucoup de gens prêts à nous aider. Souvent, je lui dis, ben, regarde, attends, je vais t'appeler, tu sais. Mais non, je ne pourrais pas dire que je me sens seul, non.
Est encore suffisamment là, votre conjointe?
Absolument, absolument, vraiment. C'est pas encore là, un stage épeurant, là. Non, elle est encore bien.
Est-ce que ce qui s'en vient, ça vous effraie?
Absolument. Absolument, mais on garde espoir. On garde espoir. Regarde juste le fait de te parler aujourd'hui. Là, c'est qu'on parle ensemble, les gens communiquent ensemble. Non, je garde espoir à 100%.
Et espoir même dans un médicament, Sylvain?
Ah ben écoute, je pense que ce serait à peu près le gros espoir qu'on attend. C'est ça.
Est-ce qu'elle prend des médicaments d'ailleurs, Josée?
Oui, elle prend un médicament, mais je pense pas que ça fait effet. Écoute, si ça fait effet, c'est parce qu'elle aurait descendu beaucoup plus vite que je pensais. Mm-hmm. Parce que moi, chaque semaine, je détecte des petites choses.
Ah
oui? Oui, absolument. Chaque semaine.
Est-ce qu'on vous a dit dans combien de temps ça
non, vraiment, puis je veux pas. Non, j'y vais au jour le jour. On profite vraiment de la vie. Ça change toute une vie. Ça change toute une vie. On profite de chaque journée, les fins de semaine, on profite de tout. Non, il y a des affaires que je ne suis pas prêt à savoir.
Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Sylvain Labelle. Merci d'avoir pris le temps de nous parler puis embrasser chaleureusement Josée de notre part. Dites-lui qu'on pense à elle.
Parfait, merci. Là.
On ne l'oublie pas. Jude Poirier, vous avez rencontré le couple. Oui, vous avez vu Josée. La dernière fois, ça m'avait frappé d'ailleurs quand on les avait reçus l'année dernière. À quel point elle avait vraiment besoin de son conjoint à côté d'elle, parce qu'elle avait des absences marquées. À 40, début quarantaine, il faut quand même dire à nos auditeurs, c'est relativement peu commun.
On parle de 2% de tous les cas d'Alzheimer qui arriveraient, qui commenceraient avant 50 ans.
Et est-ce qu'on sait pourquoi?
Oui. C'est des gènes défectueux. Dans ce cas-là, j'utilise vraiment le bon terme, on a les causes. Ce sont des causes génétiques, familiales. On connaît même les 3 gènes défectueux. Enfin, il y en a un 4e qui a été découvert cette année. On a 4 gènes anormales, causatifs pour ces formes de maladies-là. Et chez ces gens-là, le vaccin sur lequel on parlait tout à l'heure, seraient les candidats idéaux parce que la plupart de ces gens-là ont la mutation dans le gène de l'amyloïde qui est justement le problème majeur dans l'anomalie pathologique du cerveau. Donc, le vaccin irait frapper le gène défectueux. Ce n'est pas une maladie qui est due à d'autres causes que l'amyloïde. Ils ont une maladie de l'amyloïde, puis le vaccin, il est dirigé contre l'amyloïde.
Ouais. Donc, ces gens-là, amyloïde, juste pour faire ça simple à tout le monde, c'est comme des amas de vieilles cellules, de vieilles protéines qui se ramassent dans notre cerveau parce que le cerveau...
Et pris avec, dans le fond, parce que le cerveau...
C'est des espèces de dégénérescence des cellules.
Exactement. Ça fait des grands amas, des espèces de petites sphères là, dans notre cerveau qui s'accumulent. Et puis, il y en a partout dans le cerveau.
Qu'on appelle des plaques amyloïdes.
Les plaques amyloïdes. Et puis, il faut les voir un peu. Moi, je les décris comme un sac à vidange plein de protéines qui inclut l'amyloïde, mais une 60aine d'autres molécules, puis des graisses, puis toutes sortes de choses. Des morceaux de cellules, finalement.
Et ça crée de l'inflammation dans le cerveau.
On sait que le cerveau n'aime pas ça, mais en même temps... Contrairement à notre bédaine, par exemple, qui prend de l'expansion quand on a des graisses et des molécules qu'on ne veut pas, ben le cerveau, la boîte crânienne, elle ne peut pas prendre d'expansion, c'est de l'os.
Ouais.
Donc, il trouve une façon de mettre ça en petite bille dans un sac à vidange, ni plus ni moins. Et on espère, avec le vaccin, pouvoir diminuer le nombre de sacs à vidange puis diminuer la réponse du cerveau face à ce problème toxique.
Ouais.
Mais bon, tout ça, c'est de la théorie pour le moment. On a eu tellement des échecs, fait qu'on est prudent, disons.
Mais il y a des affaires qu'on sait qui marchent.
Oui.
Et on va en parler après la pause pour peut-être prévenir, ralentir, enfin tout ça. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Si vous avez un proche, si vous avez des Alzheimer dans votre famille, appelez-nous, dites-nous comment vous vivez ça. Si vous avez des questions, bien sûr, il y a des gens qui me parlent, qui ont lu des trucs sur les faux sauvages, qui, le virus de l'herpès, peut-être qui pourrait prévenir l'Alzheimer. On va clarifier ça aussi. À tout de suite, tout le monde. On parle d'Alzheimer, on se demande d'ailleurs s'il y a de l'espoir encore, des nouveaux vaccins peut-être qui pourraient réparer les dommages causés par la maladie d'Alzheimer. Le docteur Jude Poirier nous disait justement qu'il y avait peut-être un vaccin là, qui est à l'étude de phase 3. En général, c'est la phase ultime avec des patients là, qui souffrent déjà et qui ont d'autres maladies qui viennent compliquer l'Alzheimer, qui peut peut-être être un espoir. On a Christiane avec nous, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Christiane.
Ah bien, mon père est diagnostiqué Alzheimer et on fait tout pour qu'il reste à la maison. Le plus triste là-dedans, c'est que c'est ma mère qui ne savait pas. Et elle a eu beaucoup de difficultés à s'adapter à la maladie de mon père, mais on n'était même pas au courant qu'il était Alzheimer. On l'a su après le décès de ma mère. Ma mère était proche aidant. Elle a fait beaucoup pour lui, mais elle ne savait même pas elle-même qu'il était malade. Et puis, c'est ça. Elle s'est donnée, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle ne savait pas que mon père avait le Alzheimer. Je suis désolée.
Mais non, soyez pas désolée du tout, Christiane. Est-ce que vous diriez que ça l'a beaucoup épuisé, votre mère, de prendre soin
oui.
de votre père?
Ah oui, ouais. Physiquement et psychologiquement, parce que l'amour est tellement diminué dans leur couple que c'était vraiment une détresse psychologique pour ma mère. Puis quand elle a su qu'elle avait une maladie, elle n'a même pas voulu de la chimie ou de la radio. D'ailleurs, ça ne l'aurait peut-être pas aidé, mais elle a eu l'assistance à mourir.
L'aide médicale?
Oui, l'aide médicale à mourir. Et puis ça, c'était un choc aussi pour mon père. Et récemment, ce que je déplore là-dedans, c'est que il y avait le gérant qui savait qu'il y avait l'Alzheimer, mais il nous l'a jamais dit. On n'a jamais été au courant qu'il y avait l'Alzheimer. Ça a pris un an. Je l'ai su là, en mars, après le décès de ma mère. C'est ça que je trouve déplorable. Elle trouvait qu'il y avait un problème de mémoire, mais elle n'a jamais dit qu'il y avait un TPN ou un trouble de comportement. Elle nous a jamais dit ça à nous. C'est la travailleuse sociale, après le décès de ma mère, qui est venue chez nous et qui a dit « Ben, votre père a ça, ça, ça. » Ben, voyons donc, on ne nous l'a jamais dit. Alors, ma mère, elle a trouvé ça très difficile, le caractère de mon père, parce qu'il a complètement changé de personnalité. Puis, lui, avait eu une crise cardiaque, mon père aussi. Et c'est après sa crise cardiaque que tout a dégringolé. Mais on fait tout pour qu'il soit à la maison. Dernièrement, il a perdu la mémoire. En fait, on voit que ça progresse assez rapidement, d'ailleurs. Là, je le vois, il est plus capable de gérer ses médicaments. Alors, heureusement, la pharmacie lui envoie toutes ses pilules à tous les jours.
Il y a quel âge, votre père?
84 ans.
Votre mère est décédée à quel âge?
À 78. Elle est décédée récemment, en mai, d'ailleurs.
Oui. Ben, écoutez, vraiment, je suis désolée pour vous, mais en même temps, mes invités... comme Guylaine Martin, par exemple, directrice générale du Baluchon d'Alzheimer, vous vivez ça. Merci beaucoup, Christiane, vous vivez ça. C'est dans les statistiques des aidants naturels qui meurent avant la personne qu'ils aident. Là, on vient d'en avoir un exemple avec l'histoire de Christiane.
Exactement, je vous dirais, on généralise pas, parce qu'on veut surtout pas,
mais souvent, ça arrive souvent.
Souvent, les proches... un peu comme disait Christiane ou comme disait même le conjoint de José, si c'était moi qui étais malade, il prendrait soin de moi.
Ouais.
Fait que tout ce tiraillement entre le devoir, l'obligation, l'amour, tu sais, c'est pas simple. Puis en même temps, d'être un proche aidant, c'est d'être plus qu'un conjoint, c'est d'être plus qu'un parent, d'être plus qu'une fille. Et c'est là, je pense, la difficulté, c'est que les proches aidants se reconnaissent pas comme proches aidants. Ils se disent, c'est normal. Mais en même temps, cette normalité-là va prendre de plus en plus de place. Donc, leur rôle, le vrai rôle normal, lui, est de plus en plus effacé. Puis ça, on l'entend régulièrement. Je suis devenue la mère de ma mère. Je suis devenue... Donc, on l'entend ça assez régulièrement.
Et c'est tellement normal aux yeux de la société aussi.
Exactement.
Que personne reconnaît le travail du proche aidant.
Tout à fait. Ça, et malheureusement, ils vont demander de l'aide beaucoup trop tard, comme ce qui arrive à la famille de Christiane.
À qui on n'a même pas dit, votre père souffre d'Alzheimer. Comment se fait qu'on n'y a pas dit?
Écoute, je ne connais pas le cas.
Non, c'est clair, mais bon.
Des fois, ça peut être le conjoint qui ne veut pas que ça se sache. Ouais. Je te rappelle que l'Alzheimer est dans la famille des maladies psychiatriques. Puis beaucoup de gens âgés aujourd'hui voient ça aussi comme une maladie mentale.
Ouais.
Et il y a tous les stigmates.
Tout le tabou qui est relié.
Tout le tabou qui est fait.
On revient tout de suite après. Et comme on a le grand spécialiste de l'Alzheimer avec nous, Jude Poirier, on va clarifier cette rumeur qui prend de plus en plus de place dans notre cerveau très sain, c'est-à-dire le fait que peut-être que le virus de l'herpès ferait en sorte que ça créerait la maladie d'Alzheimer. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Moi, j'ai des feux sauvages régulièrement, je fais rien, je les laisse mourir tout seul. Est-ce que je suis plus à risque d'Alzheimer? » Il se trouve qu'on a quelqu'un qui a fouillé cette piste il y a très longtemps.
Oui, écoute, j'ai été le premier à travailler sur l'herpès dans l'Alzheimer en 1993. Donc, et on avait une banque de cerveau chez nous, donc assez grande. On a regardé 150 patients, si je me souviens bien, et des sujets avec Alzheimer, des sujets sans Alzheimer âgés. Et bizarrement, je vais l'admettre, j'ai trouvé de l'herpès chez 70% autant dans la maladie d'Alzheimer que chez les sujets normaux, sains, qui n'ont pas d'Alzheimer.
Mais est-ce qu'il n'y a pas 75% des gens qui ont le virus de l'herpès?
Ouais. Ils sont porteurs. En fait, ce qu'on appelle j'ai un blanc de mémoire, là, la maladie, le zona.
Oui, le zona.
Qu'on voit beaucoup chez les personnes âgées à tel point qu'ils ont sorti un vaccin contre le zona. C'est l'herpès qui ressort quand on devient plus âgé. Et notre système immunitaire est moins fort. Et puis là, l'herpès non pas sort pas autour des lèvres, mais va nous sortir dans le dos, en dessous des bras, sur le ventre.
Donc, pour toi, tu as mis cette piste-là de côté, Jude,
parce que les
à l'époque.
Sujets normaux en santé âgés en avaient autant. Et dans les 6 régions du cerveau, j'ai regardé 6 régions du cerveau différentes, puis j'ai vu la même proportion chez les Alzheimer que les sujets.
Pourquoi on repart ça?
Bien, faut dire que ça fait 15 ans qu'on travaille sur la fameuse hypothèse amyloïde avec des échecs à répétition. Je te l'ai expliqué.
Donc là, on essaie de trouver d'autres choses.
On cherche d'autres choses. Et puis, je te remarque que les gens qui travaillent sur ces choses-là oublient de citer le vieux travail des années 90.
Ouais.
C'est vieux, tu sais, les années 90.
Ouais.
Et malheureusement, on avait fait du très, très beau travail. J'aurais aimé dire que c'était lié, mais ça ne l'est pas.
OK, mais ça, c'est important. Là. Tous les gens là, qui ont des feux sauvages, paniquez pas.
Non,
ça, c'est important de dire ça.
En fait, je vous dirais, si vous approchez la soixantaine, pensez au vaccin contre le zona, parce que 70% des gens sont porteurs.
Mais le zona, ça ne veut pas dire que tu vas avoir l'Alzheimer non plus.
Non plus.
OK, le virus de l'herpès ne donne pas l'Alzheimer.
Absolument pas, mais il y a un vaccin contre le zona.
Ouais. Donc,
il y en avait pas.
Mais c'est important de dire ça, que l'herpès ne donne pas l'Alzheimer.
Absolument pas.
Parce qu'il y a des gens qui ont entendu des émissions hier puis qui ont conclu ça.
Non.
Donc, c'est important de clarifier ça. Donc, voilà. Lise est avec nous. Bonjour, Lise.
Oui, bonjour. Moi, mon mari a commencé à avoir l'Alzheimer à l'âge de 58 ans. Il avait pris sa retraite à 55 ans.
C'est jeune, puis, ça, 58.
C'est un homme qui avait beaucoup, beaucoup, en tout cas, il avait un gros poste. Il était très intelligent, plein de toutes sortes de choses qu'on n'aurait jamais pensé que cette personne-là aurait fait de l'Alzheimer.
Mm-hmm.
Et puis, il voulait pas le savoir. De toute façon, quand il a commencé, quand je m'en suis aperçu, lui aussi, mais il disait, moi, je veux pas le savoir. Mais moi, je voulais le savoir. En 2000, il a été diagnostiqué vraiment Alzheimer. Ça faisait comme 2 ans là, que ça avait commencé tranquillement. Il est décédé en 2006. Il avait 65 ans. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que au fur et à mesure de la maladie, c'est qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait un bras qu'il utilisait plus du tout. Puis on lui a fait passer d'autres tests. Puis on a dit, il fait une dégénérescence cortico-basale. Et puis moi, quand il est décédé, j'ai donné son cerveau à l'hôpital Douglas,
mm-hmm.
pour savoir exactement ce qu'il en était, parce que moi, je veux savoir s'il y a de la génétique au niveau des enfants.
On doit terminer, puis, Lise, donc votre question, c'est...
ma question est, est-ce que c'est possible que lui, étant donné qu'il a joué au hockey avec une équipe dans l'aviation...
Ah, commotion? Commotion cérébrale?
Commotion cérébrale, que ça a pu causer ça? Parce que quand ils ont fait le diagnostic, oui. Ils ont dit que...
Oui. C'est-à-dire que c'est pas causatif, mais il y a un lien avec le risque de développer la maladie d'Alzheimer et d'avoir eu des commotions. Plus on en a, plus le risque est élevé. Et si, en plus de ça, on était porteur du gène que mon équipe a découvert, là, encore dans les années 90, ça fait longtemps, si vous avez le gène et des commotions cérébrales, là, vous multipliez par 5 puis par 10 le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Il y a un lien direct entre les deux. Ouais. On parle de 2 commotions minimum, mais avec au maximum, je dirais, perte de connaissance. Donc, c'est des commotions sévères.
Ah oui. Wow. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup, Jules Poirier, de venir comme ça nous tenir au courant. Merci, Guylaine Martin. Je rappelle, Baluchon Alzheimer, il y en a dans la plupart des régions du Québec. Et bientôt, en France également.
Et dans l'Ouest canadien.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde. Merci beaucoup.